15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste. Et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au mommy makeover, cette opération esthétique qui en combine en fait plusieurs en une seule fois. Une formule qui séduit de plus en plus de femmes pour effacer certaines séquelles de leur grossesse. Avec notre invité, le docteur Michel Rouif, chirurgien plasticien à Tours, nous verrons jusqu'où on peut aller et les règles à respecter. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des otites à répétition. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler aujourd'hui du somnambulisme, un trouble du sommeil qui peut faire sourire comme ça, mais qui peut s'avérer assez dangereux aussi. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Catherine Blanc, notre sexologue, nous dira aujourd'hui ce qu'il faut faire pour pimenter un peu notre vie sexuelle. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Laura, 27 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur, j'ai une question à propos des savons intimes. Moi j'en utilise pour me laver les parties génitales et je voulais savoir si c'était une bonne chose. Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors Jimmy, la toilette intime hein, chez une femme, il faut savoir qu'il y a quand même quelques règles à respecter. Hein. C'est pas, ça ne nettoie pas comme le reste du corps. Quoi.
Exactement, parce que c'est constitué de la flore vaginale. On a une flore buccale, une flore intestinale. Chaque cavité a une flore particulière. Et dans la flore vaginale, il y a deux choses très importantes. C'est le pH, l'acidité, et les bactéries que cette flore va constituer. Normalement, on a des lactobacilles qui sécrètent de l'acide lactique. Cet acide lactique permet de baisser le pH de la sphère vaginale, qui permet d'être toujours acide. Lorsqu'on est parfois ménopausé, au décours d'une grossesse, lorsqu'on prend des antibiotiques, ces lactobacilles finissent par disparaître.
Ça se déséquilibre en fait, cette flore.
Et puis du coup, on a une flore qui devient plus basique et donc plus proliférante, plus susceptible de nous donner des infections vaginales. Et donc, il faut respecter cette sphère et la traiter de façon un peu différente. L'analogie, elle est toute simple. Vous ne nettoyez pas la cuvette des toilettes de la même façon que vous nettoyez votre parquet, dont vous voulez prendre absolument soin. Donc, on utilise des savons forcément différents.
Donc, une zone sensible, une toilette plus sensible avec des produits adaptés. Comment on choisit le savon intime, enfin le savon avec lequel on va laver cette zone?
Alors, on n'est pas obligé de l'acheter en pharmacie. On peut l'acheter en grande surface. Globalement, il faut respecter le pH de la sphère vaginale. Et donc, il faut avoir un pH compris entre 4 et 7, 8 globalement. En revanche, lorsque vous avez une mycose, il faut un pH un peu plus alcalin et donc compris entre 7 et 8. Donc d'une façon générale, utiliser un savon à pH plutôt neutre, ça permettra d'éviter des inconvénients.
Et justement, cette toilette intime, finalement, on le fait quoi? Une fois par jour, deux fois par jour? Est-ce qu'il y a un rythme à respecter pour justement cet équilibre vaginal?
Alors, une fois par jour suffit, nettoyer la vulve suffit largement. N'évitez les toilettes vaginales, endovaginales, en se disant qu'on va décaper des grandes douches. Non, au contraire, vous allez déséquilibrer la flore et ça va être responsable d'infections secondaires. Donc une fois par jour, c'est le grand maximum, deux de façon ponctuelle.
Si vraiment on sent mieux et
voilà,
qu'on a envie.
Mais au-delà, trop de toilettes à ce niveau-là, nuit à votre santé.
Très bien, mais merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils intimes cette fois. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Coralie, 36 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Voilà, donc j'ai lu sur internet que les noix, noisettes, amandes étaient bonnes pour la santé. Et j'aimerais savoir si c'est une info ou une intox.
Alors, les noix, noisettes, tout ça, bon oui, effectivement, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, c'est maintenant rentré dans les recommandations officielles du PNNS, le plan nutrition santé. Par contre, Jimmy, il est conseillé finalement d'en consommer combien, quelle quantité de toutes ces noix, noisettes, etc.
Alors, vous avez raison Mélanie, mais c'est une poignée par jour simplement. Donc à ce moment-là, on peut prendre des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix. Et on faut les choisir non salées et non grillées, parce que celles qu'on a notamment en supermarché, elles sont bourrées d'additifs.
Ah, dans les rayons apéro, par exemple.
Ouais, là, c'est pas terrible. Il faut acheter ceux qui sont déjà décortiqués, qu'on peut trouver en magasin bio ou non bio, et ça suffit largement, plutôt que ces trucs un peu salés en sachet tout près. Vous pouvez aussi acheter les petits mélanges où il y a plein de noisettes à la fois, plein de noix,
différents,
plein d'oléagineux,
ouais,
parce que ça suffit et surtout, c'est bon pour la santé.
Ah oui, donc on évite ceux qui sont au rayon apéro, mais par contre, on peut aller au détail ou en vrac, là, c'est super.
Exactement.
Donc, on prend une poignée par jour de fruits à coque, c'est ce qui est recommandé. Mais pour qu'on comprenne bien, en fait, ça nous apporte quoi, ces noix, noisettes, à notre organisme,
Alors,
finalement?
C'est des graisses, donc c'est gras. Donc c'est gras, donc c'est pas forcément mal.
C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger tant que ça.
Il ne faut pas trop en manger, c'est comme le saumon, c'est bien, mais il ne faut pas trop en prendre. C'est intéressant parce que c'est riche en acides gras monoinsaturés et en acides gras polyinsaturés, et ça contient aussi des oméga-6. Ces oméga-6, c'est prouvé, ça protège le cœur. Et donc vous risquez de protéger vos artères, votre cerveau, et avoir moins d'événements cardiovasculaires si vous en consommez, mais encore une fois, avec modération. Donc une poignée par jour, c'est bon pour la santé.
Et ça, donc ça, vous avez dit ça contient des oméga-6, des graisses, des bonnes graisses, on va dire, mais quoi d'autre? Ça contient d'autres choses, j'imagine.
Alors, c'est assez riche en protéines. Ça comprend 10 à 25 grammes de protéines pour 100 grammes de noix. Donc, c'est pas mal. C'est même plus que la viande ou certains poissons. En revanche, ça ne remplacera jamais le poisson ou la viande, car ça manque certains acides aminés, notamment la lysine, la méthionine,
et
la cystine.
C'est dans la viande.
Donc, ça, on en a besoin. Et ça contient aussi des fibres. Des graines ressons permettent aussi d'avoir un bon transit. Donc, globalement, c'est bien pour le cœur, le système digestif. Mmh. Et donc, il faut en prendre.
Et le transit également. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, comme Coralie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des otites à répétition. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Michel Ruif, avec qui on va parler du mommy makeover, une tendance esthétique qui nous vient des États-Unis et qui consiste à combiner plusieurs interventions en une pour les femmes qui souhaitent réparer certaines séquelles esthétiques après la grossesse. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le chirurgien Michel Ruif, pour parler des séquelles esthétiques de la grossesse et de ce qu'on peut faire pour celles qui souhaitent y remédier. C'est le moment du bon conseil, dit docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des otites à répétition. D'abord, pourquoi on fait des otites ?
Alors, l'otite survient quasiment exclusivement dans un contexte de rhume. Si vous êtes enrhumé, vous pouvez faire une otite. Il est exceptionnel de se réveiller un matin avec mal aux oreilles. Donc, globalement, si vous êtes enrhumé, se moucher le nez, ça paraît tout bête, peut éviter une otite, mais ça pourra aussi vous éviter la bronchite et la sinusite. Donc, l'otite est la conséquence d'un rhume.
C'est un rhume qui dégénère vers les oreilles. Quoi. Ça passe de la cavité nasale au conduit auditif, quoi, en fait. Alors, pourquoi finalement les enfants, c'est quand même eux souvent qui ont des otites. Nous, en adultes, c'est plus rare.
Pour deux raisons. Vous l'avez évoqué au tout début. La première, c'est que les enfants font plus de rhinopharyngite que les autres parce qu'ils acquièrent leur immunité à ce moment-là. Donc, forcément, plus de rhino lié à la collectivité, lié aux épidémies, lié au fait que leur système immunitaire est encore pas tout à fait mature. Oui. Et donc, du coup, plus de risques de faire des otites. Et la deuxième cause, vous l'avez un petit peu expliqué, c'est qu'en fait, au niveau du nez, on a une trompe qui s'appelle la trompe d'Eustache qui relie le nez à l'oreille.
D'accord.
Et lorsqu'on est enrhumé, cette trompe devient inflammatoire et infecte l'oreille. Or, chez les enfants,
c'est comme ça que ça
cette
marche.
Trompe, elle est plus courte et plus étroite, ce qui fait qu'à peine ils ont le nez enrhumé, que ça s'infecte
complètement. Ça va dans l'oreille direct.
En grandissant, cette trompe s'élargit et donc finalement draine un peu plus les bactéries. Et à ce moment-là, on fait moins d'otites à l'âge adulte que chez les enfants.
Ah, on comprend mieux pourquoi les enfants, effectivement, sont les premières victimes des otites. Alors, est-ce qu'on peut vraiment devenir sourd? On entend souvent ça, les enfants qui en ont beaucoup. Parfois, on leur pose des yo-yo, là, et... parce qu'on dit qu'il y a un risque pour la surdité, c'est vrai?
Alors, il y a du vrai et du faux. Les parents, souvent, sont inquiets lorsque l'enfant fait beaucoup d'otites, justement, qu'il soit sourd. Or, ce n'est pas l'otite à répétition. Par exemple, faire 5 otites dans l'année ne va pas rendre sourd votre enfant.
C'est embêtant.
En revanche, si de façon perpétuelle, le tympan est inflammatoire, est ce qu'on appelle une otite séreuse, c'est-à-dire un tympan qui ne guérit pas, qui fait qu'il y a toujours un petit peu d'eau, là, il y a un risque de surdité, de moins bien entendre, et c'est la première cause de troubles du langage de chez l'enfant. Donc, globalement, un enfant qui a 3-4 ans, qui parle un peu moins bien, qui a un peu de difficultés,
et qui fait beaucoup d'otites,
qui fait des otites, ou même si on ne sait pas trop, parce qu'il y a des enfants qui font des otites à bas bruit, ils ne s'en plaignent pas pour autant, ils vont faire 2-3 otites, mais avoir un tympan inflammatoire, premier réflexe, on les amène chez l'ORL, il examine le tympan et puis on fait un audiogramme. Et s'il y a quelque chose, on peut poser des yo-yo, on peut faire autre chose et éviter des complications avec un trouble du langage et trouble des acquisitions.
Donc chez un enfant qui a beaucoup d'otites, l'interlocuteur c'est l'ORL.
L'ORL. Ouais. Alors dans un premier temps, évidemment, le médecin de relais, c'est le médecin généraliste, le pédiatre. Et puis lorsqu'on ne sait pas trop pourquoi l'enfant fait autant d'otites, parfois une carence en fer, il faut le dire, donne des otites, et ben il vous adressera à l'ORL pour un bilan complémentaire. Et en règle générale, ça se passe très bien.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le docteur Michel Ruif. Il est chirurgien et surtout secrétaire général de la FOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Ruif.
Bonjour Mélanie.
Je ne vous ai pas bien présenté, si, c'est
bon. C'était parfait.
Bon, très bien. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler du mommy makeover. D'abord, ça veut dire quoi ce nom? Parce que bon, c'est anglais, ça, on comprend mommy maman, mais makeover, ça veut dire quoi?
Le terme mommy makeover, en fait, revêt l'idée de de réparer les outrages, en quelque sorte, du fait d'être une maman. Et on sait tous que d'être une maman, c'est une grossesse, c'est un ventre qui se détend, et c'est aussi des seins qui se détendent, en particulier une prise de poids. Donc en fait, tout le concept, c'est ça, c'est d'aider finalement...
Si on traduit littéralement, ça fait un peu refaire maman, oui, bon,
c'est pas très joli. Mais le principe, c'est vraiment ça, c'est de se préoccuper finalement de la silhouette post-grossesse.
Et il y a beaucoup de demandes en France pour ça, parce qu'on sait que ça nous vient des États-Unis, mais ici...
Il y a toujours une forte demande aux États-Unis, et c'est vrai que ce concept est intéressant. Il est en plus, spontanément, les patients posent des questions. En fait, la question, elle se pose aussi de notre point de vue en tant que médecin, c'est de savoir dans quelle mesure on peut proposer une solution thérapeutique, mais de façon en pleine sécurité.
Jimmy, pardon.
Est-ce que vous pouvez rappeler les principaux désagréments qu'une femme peut subir, parce que parfois il faut dire le terme, subir après une grossesse, les conséquences physiques, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure.
Il y en a principalement trois. Je pense que la première, c'est malheureusement, c'est souvent la prise de poids, qui fait que après la grossesse également, il faut revenir à son poids. C'est déformant. Celle qui est peut-être la plus embêtante, c'est la zone abdominale, puisqu'en fait, la grossesse, l'utérus prend du volume, a fortiori quand c'est des bassins qui sont peu larges et avec des grossesses gémellaires. Et donc, le ventre est abîmé, il est abîmé au niveau de la peau, mais il est aussi abîmé au niveau de la paroi musculaire.
La peau est relâchée, un peu flasque.
Mais aussi la paroi musculaire. Voilà. Oui. Donc, et quand la peau s'abîme trop rapidement, enfin se détend trop vite, parfois ça ne suit pas, et c'est là qu'on a les vergetures de la grossesse. La troisième chose, et c'est le même problème de la distension de la peau plus ou moins rapide, la troisième chose, c'est au niveau des seins. Et évidemment, avec la montée de lait, qui fait qu'il y a une mise en pression et en volume des seins plus ou moins rapide.
Est-ce qu'on a tous ces problèmes-là après des grossesses, ou est-ce que finalement c'est assez inégal ces
séquelles ? Non, il y a une idée générale, mais il y a une inégalité aussi dans cette histoire-là. Il y a des femmes qui ont des ventres magnifiques après des grossesses gémellaires, et il y a d'autres femmes qui, dès la première grossesse, ont un ventre qui s'abîme beaucoup. Et puis on a même parfois des femmes qui ont des premières grossesses très bien, et puis qui, dans l'art de la seconde grossesse ou la troisième, peut-être parce que l'environnement hormonal est un peu différent, ou il y a une prise de peau aussi associée.
On n'a plus le même âge parfois. Oui,
voilà, donc il y a une inégalité naturelle, malheureusement.
Alors, on n'a pas terminé avec vous, docteur Wiff. Dans un instant, on va passer au concret, à ce que veut dire vraiment, finalement, ce mommy makeover. Combien d'interventions esthétiques en une peut-on vraiment combiner ? Restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. De plus en plus de femmes, après une grossesse, demandent qu'on leur remonte les seins, veulent aussi retrouver un ventre moins flasque. On vous dira jusqu'où on peut aller lors de cette même chirurgie. C'est pratique de ne pas avoir à se faire opérer plusieurs fois, mais pas sans danger, vous verrez. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Michel Ruif, chirurgien esthétique. Aujourd'hui, en France, quand vous faites ce mommy makeover dont on parle depuis tout à l'heure, cette opération donc, qui répare les séquelles de la grossesse, on fait combien, jusqu'à combien d'interventions en une seule ? 2, 3, 8 interventions ? Jusqu'où on peut aller ?
Ça, je pense que le maître mot pendant toute notre interview là aujourd'hui, ce sera quand même la sécurité. Donc, habituellement, c'est de l'ordre de 2 à 3 interventions, et dans les 3, j'inclus la partie lipoaspiration qui peut être aussi très modelante et qu'on associe. Mais en général, c'est 2 interventions et essentiellement abdomen et seins.
Jimmy ?
Et aux États-Unis, apparemment, on en fait beaucoup plus, ça dure plusieurs heures. Vous, par exemple, vous en pensez quoi ? Vous trouvez que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être faire pour... Parce que ça peut être une demande des femmes. Faites-moi tout en même temps, on fait 5
comme
interventions,
ça,
des multi-équipes, comme ça on n'en parle plus, et puis je suis tranquille une bonne fois pour toutes.
Alors, c'est clair que la demande, elle est liée au fait d'être immobilisé pendant un certain temps, mais le confort et encore une fois la sécurité...
Surtout qu'a priori, ça s'adresse à des jeunes mamans, donc il y a peut-être des choses à faire à la maison, s'occuper des enfants, c'est pas évident de se faire hospitaliser plusieurs fois.
Voilà,
donc ça peut être juste pratique aussi.
Et c'est pas évident non plus d'être opéré de multiples interventions qui vous rendent presque, je dirais, un peu invalide pendant quelques temps. Donc, il faut mesurer cet aspect-là avec les patientes en fonction de ce qu'il y a à faire. Mais disons 2, voire 3. Je pense qu'après, encore une fois,
en France,
c'est la sécurité.
Pour l'instant, c'est la règle. Plutôt 2, 3, pas plus. Et justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce mommy makeover ? En général, les principales interventions, c'est quoi ?
Donc la demande, elle concerne en particulier l'abdomen qui peut être plus ou moins intéressé par la distension de la grossesse. Ça peut être simplement une liposuction, ça peut être aussi une remise en tension de la peau et enfin des muscles. Et puis c'est aussi les seins, donc avec remonter des seins ou parfois mettre un petit implant pour augmenter le volume, restituer le volume ou une injection de graisse. Voilà.
Et concrètement, comment ça se passe ? Parce qu'on dit relisser un ventre, ça a l'air tout simple, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Parce que je crois que c'est une opération quand même qui est assez lourde.
Ce qui rend l'intervention du ventre lourde, essentiellement, c'est la suture musculaire. C'est-à-dire que très souvent, après les grossesses, les muscles sont écartés sur la ligne médiane du ventre.
Les deux abdos,
muscles,
là, hein, c'est
ouais,
ça.
Les abdos, les carrés de chocolat. Quoi.
Les carrés de chocolat, la tablette, c'est elle, ça, elle voilà. s'est un peu étalée, quoi, c'est
voilà.
ça.
Donc là, au lieu d'avoir une petite ligne.
Moi, j'en ai jamais eu, hein, de carré de chocolat, donc au moins, c'est réglé.
Oui, moi, c'est un super marché aussi,
moi non plus.
Donc... après grossesse, c'est réglé. Alors, donc ça s'écarte, expliquez-nous comment
donc,
vous resserrez tout
quand
ça.
Quand les deux muscles grand droit s'écartent, au lieu d'une petite ligne qu'on appelle la ligne blanche, on a finalement un ruban, quelque chose qui va faire plusieurs centimètres et qui finalement empêche la définition du ventre, de l'abdomen et de la taille en particulier. Donc c'est ça qui est finalement le plus pénible parce qu'on resserre les muscles, c'est assez inconfortable.
C'est de la couture, hein, là, c'est
voilà,
ça c'est,
oui, on fait une sorte de fermeture éclair, une sorte de lassage au centre pour apporter du design, en fait, de la forme à la silhouette.
Et vous enlevez de la peau aussi, c'est comme un lifting
après,
aussi.
Une fois qu'on a fait ça, on va retendre la peau qu'on vient de décoller pour accéder à ses muscles. Et on retend la peau, on fait un lift du ventre.
Il n'y a plus de nombril, pardon.
Ah oui, et du coup, à ce moment-là, les vergetures qu'on a sur le côté, est-ce qu'on peut espérer les faire disparaître, celles qui sont en dessous du nombril? Et peut-être, parce que ça aussi c'est une demande, hein, les vergetures.
Donc le nombril, les vergetures. Donc...
Répondez aux deux, allez. Commencez
donc,
par les vergetures, je suis galante.
Les vergetures. Donc les vergetures, elles sont souvent en bas. Parfois elles sont latérales, mais elles sont souvent en bas, sous le niveau de l'ombilic, très souvent, parce que c'est là où l'utérus a le plus détendu l'abdomen. Et elles partent dans une abdominoplastie classique où on fait un lifting, c'est cette peau-là sous l'ombilic qui s'en
génial,
va.
Génial, on vire tout, c'est
donc,
top.
Donc en fait, toutes les vergetures sous-ombilicales partent avec l'intervention. Il reste souvent quelques vergetures, mais qui sont abaissées. Celles qui sont latérales sur les hanches, en revanche, elles restent. Hein, voilà.
Mais ça, avec donc, le temps, la couleur devient plus pâle et en général, au fur et à mesure des années, ça va mieux.
Alors pour l'ombilic, ouais. Ça c'est aussi la grande question. D'ailleurs, les patientes demandent toujours, mais est-ce que vous...
M'enlever mon nombril, ouais.
C'est mon ombilic. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que c'est mon ombilic, que ce n'est pas celui d'une autre. Donc non, c'est bien l'ombilic qui reste, mais en fait, on découpe autour, on fait le lifting du ventre et après, on le fait ressortir au milieu du ventre, et on fait la suture à cet endroit, sur l'ombilic.
Alors, docteur Wiff, vous restez avec nous dans un instant. On va continuer à parler du Mommy Makeover, cette intervention 2 ou 3 en 1 pour gommer les séquelles esthétiques de la grossesse.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc poursuivre sur cette intervention au niveau du ventre, notamment pour retrouver une silhouette d'avant-grossesse. Une intervention qui donne de bons résultats, on a commencé à en parler, mais qui n'est pas sans risque. Vous verrez qu'il y a quand même des contre-indications absolues pour subir ces opérations qui visent à retrouver son corps d'avant-bébé. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le chirurgien Michel Rouif, secrétaire général de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué en quoi ça consiste finalement cette nouvelle tendance en esthétique, le mommy makeover, qui permet donc à des femmes de combiner plusieurs interventions en une pour gommer les séquelles de la grossesse. Et donc, vous nous disiez qu'en général, vous refaites les seins, grosso modo, les seins, le ventre de ces femmes, 2 interventions en une, mais que finalement, l'abdominoplastie, c'est pas sans risque. C'est même l'opération qui est presque la plus risquée en esthétique, je crois.
L'abdominoplastie, c'est celle qui conditionne en fait le risque, effectivement, et en particulier le risque de phlébite. C'est vraiment l'intervention dans notre spécialité qui présente plus de risques de phlébite, et donc son corollaire, c'est l'embolie pulmonaire. Donc il n'est pas question de prendre ça à la légère. Et le fait
pour de l'esthétique en plus, parce qu'elles sont pas malades,
sûr,
ces femmes.
Le fait d'associer d'autres interventions fait qu'on rallonge la durée opératoire, et donc il y a beaucoup de choses. L'inconfort devient aussi en plus un problème, puisque les gens se lèvent peut-être moins vite. Et la déambulation rapidement après l'opération, peut-être pas toujours le jour même, si possible le jour même, c'est aussi une prévention. Donc tout ça fait que le confort post-opératoire est essentiel pour la prévention du risque.
Jimmy ?
Une femme qui veut se faire opérer, qui veut faire par exemple refaire ses seins et le ventre, c'est combien de temps d'opération, combien de temps de convalescence ? Parce que derrière, je suppose qu'on ne peut plus travailler pendant un petit moment, on ne peut plus s'occuper des enfants ou de sa famille. Donc globalement, il faut compter quoi comme délai ?
Donc une abdominoplastie, en général, c'est de l'ordre de 2 heures. Mm-hmm. Parce qu'il y a un premier temps, souvent, de lipoaspiration, de modelage. Ensuite, on fait le lifting, la suture des muscles.
Donc d'abord, on enlève la graisse, ensuite on lisse, c'est ça ?
D'abord, on enlève la graisse, souvent sur le haut et sur les côtés. Ensuite, on suture les muscles.
D'accord.
Enfin,
on rapproche les tablettes de chocolat.
Voilà. Et enfin, on fait le lifting, on retire la peau en trop.
Donc ça, c'est 2 heures à peu près.
Ça, c'est à peu près 2 heures. Ensuite, si on fait une chirurgie des seins, en fonction de ce qu'il y a à faire, si c'est mettre un petit implant, c'est assez rapide, ça peut demander une petite heure, 3/4 d'heure. Si on fait en plus un modelage du sein, mettre
un peu de graisse, les remonter,
ça va vite être 2 heures, 2h30.
Donc
finalement, on arrive
heures.
Assez facilement à 4-5 heures. Et clairement, on se donne 6 heures maximum. Quoi.
Ah oui, vous ne dépassez jamais ces 6 heures.
Non, c'est la règle. 6 heures, on reste dans une zone raisonnable. Après, on rentre dans une zone plus à risque.
Et la convalescence, dont tu parlais, Jimmy, ouais.
Et la convalescence, elle est fonction du confort aussi en particulier. C'est-à-dire que si les patientes avec l'abdominoplastie, on tire quand même pas mal sur le ventre. Et donc la patiente, elle a un petit peu plié le lendemain.
Elle se réveille, elle n'est pas bien,
elle,
ouais,
elle
j'imagine.
Elle n'est pas bien, ça tire un peu, elle est un peu pliée, elle a du mal à se lever, à marcher. On l'aide pour ça. Et si elle est inconfortable, et donc si elle a d'autres zones opératoires qui peuvent être éventuellement douloureuses, un implant par exemple, un implant derrière le muscle.
Elle a mal au sein, au ventre, puisqu'on se réveille, on a mal
au sein, mal au ventre, vous n'allez pas vous lever très facilement. Donc c'est ça qui. Ce confort post-opératoire est associé
donc
à la sécurité.
Vous les gardez combien de temps à l'hôpital déjà, puis elles peuvent retourner au travail au bout de combien de temps en général, en moyenne?
Je pense que pour l'abdomen, c'est de l'ordre de 2 à 3 jours. Nous, c'est souvent 3 jours, mais si tout va très bien, ça peut être 2 jours. Donc je pense que c'est cette durée. Et d'ailleurs, si on regarde les durées d'hospitalisation, c'est bien l'intervention avec le body lift, hein, qui est cette intervention après les grands amaigrissements, qui nous oblige à garder les gens un petit peu en sécurité quelques
jours. Vous les gardez, et après elles sont opérationnelles pour retourner au travail quand? Vous conseillez combien d'arrêts maladie ou de vacances, quoi, hein?
Si on compare aux situations qui sont prises en charge pour des grands amaigrissements, si on sort un peu du cadre là, de ce qui nous intéresse, c'est 15 jours, 3 semaines d'arrêt. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui vous immobilise.
Jimmy?
Et au bout de combien de temps une femme peut venir vous voir ou un autre pour se faire opérer? Parce que peut-être reprendre un poids de forme d'abord avant de vouloir se faire opérer?
Oui, c'est une excellente remarque parce que il est clair qu'il y a un temps de retour à une normalité, ce poids de forme. Hein, il ne faut pas avoir un poids fantasmé, mais ce poids de forme.
Parfois, ça peut prendre plusieurs années.
C'est
6
mois,
je sais de quoi
un an. Je pense qu'une année, c'est.
Parfois 2 ans.
Parfois c'est 2 ans. Voilà, donc, et puis
parfois
au bout de 2 ans, il y a une
après-grossesse, c'est
voilà,
ça.
Et parfois au bout de 2 ans, il y a une autre grossesse. Donc il y a aussi cette histoire-là. Donc il faut que le programme aussi du couple ou de la famille soit aussi dans la tête.
Bon, en tout cas, vous n'opérez pas avant un an après la naissance du dernier bébé, quoi, on va dire.
Je pense que ce n'est pas raisonnable avant un an. Enfin, bon.
Parce qu'une fois qu'elle a été opérée, si elle veut retomber enceinte, c'est compliqué. Donc il faut peut-être. Faut dire que plus de grossesse après une intervention, c'est aussi un choix de vie.
Il y a deux choses qui sont assez intéressantes. Le fait de suturer les muscles de la paroi abdominale fait qu'on imagine bien que replacer une grossesse derrière, c'est un peu abîmer le travail.
Bah oui, c'est d'accord dommage. Ça, vous n'aimez pas, vous. Hein.
J'imagine. Quand on travaille, c'est pas pour... Et puis pour les seins, c'est l'histoire de par exemple de l'implant. Un implant met en distension le sein. Si derrière on a une grossesse avec une montée en volume importante, on fait deux fois la distension du sein et là on abîme le sein, enfin on abîme la peau.
Donc vaut mieux avoir terminé avec ses projets de grossesse en général. Mais ça a un coût en plus, donc c'est dommage de devoir recommencer effectivement. Au bout de combien de temps on est montrable entre guillemets sur la plage? On s'est fait opérer du ventre, on a des cicatrices partout. Je sais pas, parce que bon, moi si j'ai un ventre tout lisse mais bourré de cicatrices, j'ai pas tellement envie. Hein.
Bah, les cicatrices, c'est toujours la même chose, que ce soit le ventre ou les seins. Au début, c'est très fin. Au bout de quelques mois, c'est un peu inflammatoire, un peu hypertrophique, donc
un peu rouge.
Et après, ça redevient un peu plus blanc aux alentours de 6 mois, un an.
Opéré maintenant, cet été, ça devrait aller.
Oui, l'hiver, c'est idéal, parce qu'en plus, il n'y a pas toute la contrainte des vêtements de contention, etc., qui ne sont pas faciles à porter quand il fait chaud.
Jimmy ?
Et une partie de cette intervention peut être prise en charge par l'assurance maladie. Est-ce qu'il y a des critères, quels critères il faut respecter ?
Alors, en fait, la prise en charge, elle est essentiellement liée à l'abdomen. Et pour avoir la possibilité d'une prise en charge pour l'abdomen, il faut que le ventre couvre partiellement ou totalement le pubis. Seulement dans ces conditions, on est amené à faire une demande auprès de la sécurité sociale. Seulement dans ces conditions.
Si le ventre ne couvre pas le pubis, pas la peine, voilà. C'est aux frais de la
patiente.
On
entend souvent, mais j'ai eu des grossesses, etc. Ce n'est pas le critère. Le critère de départ, c'est couverture partielle ou totale du pubis.
Donc c'est quand même déjà assez important.
Ça sélectionne beaucoup,
ouais.
Et dans le post-grossesse, on n'a pas toujours ça.
Ça fait quoi, une femme sur combien qui peut se faire prendre en charge?
Alors,
pour
peut-être
ça
une sur 10, voilà.
Pas plus, oui. Sinon, le coût justement total de ce mommy makeover, c'est quoi quand on fait, comme vous avez dit, en moyenne, les seins et les fesses? Enfin non, les seins et les fesses, pardon, les fesses, on n'a pas parlé des fesses. les seins et le ventre.
Un acte manqué, on appelle ça comment?
Souvent dans notre pays, avec tout l'environnement sécurité qu'il y a, je pense qu'il y a c'est aussi l'avantage de la chirurgie dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de sécurité, ça a un coût. Donc souvent, ces interventions sont l'abdominoplastie, c'est de l'ordre de 5000 euros, enfin entre 4 et 6, si vous voulez, quelque chose comme ça. Les seins, c'est à peu près pareil, dès lors qu'on y passe 2 heures, il y a pas mal de contraintes.
Donc la totale,
donc,
ça
vous,
fait
vous, vous
10
associez
000,
les deux, vous retrouvez entre 6 et 10 000 euros.
Enfin, ça dépend voilà, où on est, voilà, à Paris exactement. C'est un peu plus cher qu'en province.
Et puis si on rajoute une lipo sur le associé, etc. Enfin, voilà.
Voilà. Vous parliez donc de la sécurité dès le début de l'émission. J'imagine que vous n'acceptez pas toutes les demandes. C'est quoi les risques principaux? Quelle patiente vous n'opérerez jamais pour un mommy makeover?
Je pense que les risques principaux, encore une fois, on revient sur le risque de la phlébite et de l'embolie pulmonaire qui pourrait
C'est le risque principal, on a compris.
Donc, c'est l'abdomen. Et l'abdomen, c'est aussi c'est la surcharge pondérale, en fait, qui est un des risques principaux. Et donc, à partir du moment où une patiente est en surcharge pondérale, un BMI, enfin un indice de masse corporelle supérieur à 25, Si en plus, il y a une consommation de tabac, si en plus, il y a un âge qui est un peu plus élevé, bon, c'est pas tout à fait le
donc
sujet.
Donc une patiente
là.
Qui a atteint d'obésité et qui fume, vous l'opérez jamais?
Ah si, on l'opère, mais on la met en garde. Déjà, on essaie de la faire, on lui demande de perdre du poids avant.
D'accord.
Et la deuxième chose, on lui demande aussi d'arrêter le tabac.
Le tabac en esthétique, vous détestez. Il y a des opérations pour lesquelles vous détestez mais particulièrement, c'est lesquelles? En esthétique, très rapidement.
En esthétique, l'abdomen et le lifting.
Ah vraiment, ça, la cicatrisation n'est pas bonne,
et,
hein, c'est
et,
ça?
Et les prothèses, avec cette petite relevée, remontée du sein, et les prothèses, c'est pas le tabac également une mauvaise chose.
Merci beaucoup, docteur Huif, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur ces opérations esthétiques combinées, dont la tendance nous vient du Brésil ou des États-Unis. Mais on voit qu'en France, vous les chirurgiens, vous n'acceptez pas tout, la sécurité des patientes d'abord. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, et c'est aujourd'hui, on s'est intéressé au somnambulisme, un trouble du sommeil qui peut faire sourire comme ça, mais qui peut s'avérer assez dangereux aussi, vous allez voir. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du somnambulisme. Que savez-vous de ce trouble du sommeil? Êtes-vous vous-même un peu somnambule, justement? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Alors j'ai un très mauvais sommeil, mais j'ai pas de problème de somnambulisme par contre.
Quand je dors.
Ça fait comme une sorte de rêve en fait pour moi. C'est.
Je parle dans mon sommeil.
On voit vraiment une absence de la personne au niveau du regard, parce qu'il avait les yeux ouverts. Je sais pas si tous les gens somnambules sont comme ça.
On est dans un état un petit peu second et ça me fait peur.
Ça peut être une sieste, hein, c'est tout un état d'endormissement, de veille non consciente, donc oui, ça peut être dans la journée en plus, ouais.
J'imagine que oui, c'est au niveau du cerveau qu'il se passe quelque chose, mais...
Est-ce que c'est une grosse activité cérébrale, je sais pas. Non, j'avoue, je me suis jamais posé cette question, mais...
Bah, ça doit être l'inconscient qui se manifeste.
En général, c'est dans l'enfance, parce que le cerveau est pas encore complètement mature.
Faut juste l'accompagner, inviter la personne à se recoucher, et après, normalement... Tout est réglé.
Oh non, je dirais pas maladie, je pense que c'est peut-être un trouble.
Ça peut être des signes précurseurs de maladies, par contre, neurologiques plus sévères. À mon avis, il faut mieux prendre un médicament, mais si on peut éviter...
Alors, on va voir s'il va falloir prendre des médicaments. Mais Jimmy, le somnambulisme, c'est vrai que ça fait parfois sourire. On voit ces gens parfois dans des films, les bras devant, marcher, les bras
vous
tendus.
Très bien
le somnambule, vous avez vu. Voilà, mais c'est, en réalité, c'est un vrai trouble du sommeil, on est d'accord?
Exactement, ça appartient à la famille des parasomnies. La même chose que si vous rêvez de Mathieu Noël toutes les nuits.
Ça ne m'arrive jamais.
Non, mais vous pouvez faire des terreurs nocturnes, des cauchemars, de l'énurésie, une paralysie du sommeil.
Tout ça en rêvant
donc,
de Mathieu Noël.
Tous ces syndromes, ça peut être la conséquence d'un rêve de Mathieu Noël. Et donc, ça a un vrai trouble du sommeil. Mais en revanche, si vous voyez votre enfant déambuler et que c'est occasionnel, que c'est ponctuel, pas de panique, ça ne rentre pas dans le cadre d'une pathologie. C'est un événement qui est pathologique lorsqu'il est répétitif ou lorsqu'il a des conséquences. On va en parler juste après.
Alors justement, on va parler donc de ces conséquences tout dans un instant. Mais d'abord, vous l'avez un petit peu amorcé. Chez l'adulte, finalement, c'est assez rare. Par contre, chez les enfants, c'est hyper fréquent. Hein.
Exactement, c'est plus fréquent. Donc ne soyez pas inquiets si votre enfant en fait. On va expliquer pourquoi. Le somnambulisme, ça survient lors d'une phase du sommeil très particulier qui est le sommeil lent profond.
Lent profond,
exactement.
D'accord.
Sauf que chez les enfants, ce sommeil lent profond dure 3 heures et dure un peu plus que chez les adultes. Et donc, du coup, ils ont plus de risques ou de chances de faire du somnambulisme que les adultes. Pas de panique, ça concerne jusqu'à 20% des enfants.
Ah oui, c'est énorme.
C'est beaucoup. Hein. Un enfant sur 5 ou 2 sur 10.
Ouais.
Et il ne faut pas s'inquiéter parce que le pic survient entre 10 et 13 ans.
D'accord.
C'est assez rare avant, assez rare après, mais c'est une période normale.
Et surtout chez les garçons, j'avais déjà lu. Plus chez les garçons que chez les petites filles.
Plus de petites choses bizarres comme ça. Mais bon, bref, pas de panique, c'est fréquent chez l'enfant et il y a très peu de conséquences.
Alors, c'est pas un peu génétique d'ailleurs le somnambulisme. Moi, je sais que je ne suis pas somnambule, mais je fais de la somniloquie. Je parle la nuit. Je ne me lève pas, mais je parle. Et mon fils fait pareil. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une part un peu familiale dans ce trouble?
Et vous parlez aussi beaucoup la journée,
mais
la
oui,
nuit,
c'est vrai,
pas
mais je m'avare tout le temps.
Mais voilà,
en fait.
que voulez-vous? Je pense que voilà, on reproduit ce qu'on fait en journée.
C'est
et
ça.
Pas de panique, c'est un peu comme dans la. Il n'y a pas de caractère héréditaire prouvé. En revanche, une étude a montré que si un des deux parents est somnambule, vous avez 45% de risque d'avoir un enfant qui est somnambule. Et le risque augmente si les deux parents le sont.
Bah, c'est pas de bol. Se retrouver un couple de somnambules la nuit, ça doit être quelque chose
à
la maison.
Imaginez deux Gomez à la maison ensemble qui se passe. C'est bizarre. Mais si les deux sont somnambules, et ben on monte à 60%. Donc il y a quand même un caractère.
Ouais, il y a quelque chose d'un peu génétique.
Un facteur de risque génétique évident.
Alors à partir de quand, parce qu'on plaisante là, mais à partir de quand on considère finalement que le somnambulisme, c'est grave et ça devient, on va dire, pathologique, quoi, en fait?
Alors ça devient pathologique lorsque finalement ça nuit à la qualité du sommeil. Parce qu'on a dit que ça survient vient lors d'une phase de sommeil, donc elle peut être perturbée. Donc si finalement les événements se répètent et que l'enfant se réveille toujours fatigué ou l'adulte, là on se dit qu'il y a un problème. En revanche, le risque à très court terme, c'est les accidents. Et donc c'est finalement que sur la route, sur le chemin, l'enfant trébuche dans les escaliers, tombe.
Le mari tombe dans l'escalier
et
par
on
hasard.
On le pousse, c'est pas pareil. Mélanie,
il peut ouvrir une fenêtre, non, mais il y a des choses très. Il y a eu des accidents très graves. Hein,
ouais. Laisser traîner des objets coupants. Donc oui. Le risque, il est plus finalement lié aux blessures qu'au somnambulisme en tant que tel, sur le très court terme. Sur le long terme, on en a parlé, c'est le trouble du sommeil.
Donc si on a ça tout le temps, toutes les semaines, on consulte surtout, il y a des traitements ?
Oui, si c'est très récurrent, s'il y a un problème, on peut parfois prendre des traitements, alors c'est assez rare, des benzodiazépines, mais parfois, il peut y avoir un problème psychologique sous-jacent, donc on peut faire
des techniques de stress,
de relaxation, de sophrologie. Bref, si ça nuit à votre qualité de vie, il faut consulter.
Très bien, merci beaucoup Dr Djihami Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va vous expliquer comment pimenter un peu votre vie sexuelle et éviter de tomber dans la routine. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Djihami Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Nicolas, 46 ans, qui nous a écrit de Marseillan. Je vous la lis. Donc, ma compagne ne veut pas pimenter notre relation qui s'est enfermée, à mon sens, dans la routine. Que faire, Catherine ? Alors Catherine, je crois qu'il ne dit pas vraiment depuis combien de temps il est avec sa compagne, Nicolas, mais est-ce que c'est l'eau de tous les couples finalement qui sont ensemble depuis des années, la routine, sexuellement ou tout court, c'est obligatoire ?
Absolument, parce que quand une relation s'installe, elle s'installe d'abord sur une inquiétude, qui est l'inquiétude que la relation ne perdure pas. Donc on a de cesse que de vouloir mesurer la confiance que l'on s'est accordée et l'intérêt que nous avons à la relation dans ce circuit routinier dans lequel nous avons des rendez-vous. Donc c'est assez curieux et paradoxal, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas routinier, on se sent anxieux, mais le désir profite de cette anxiété puisque ça va permettre du coup de se mettre toujours dans les starting blocks pour être prêt à tout, etc.
Ouais.
Donc ça alimente pas mal le désir, mais c'est un désir qui part sur une base un peu anxiogène. Alors qu'ensuite, nous n'avons de cesse que de mettre des choses absolument tranquilles qui rendent compte de notre confiance. Et du coup, nous laissons un peu traîner les choses d'une fois à une autre où nous faisons l'amour et dans des choses où nous nous connaissons déjà.
Djihami ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire pimenter le quotidien ? C'est pas forcément des choses extravagantes. Peut-être que, je sais pas, changer d'endroit ou je sais pas ce que...
Vous voulez pas parler de sextoy, par exemple, mais
oui, voilà. Mais c'est vrai, on n'est pas obligé de. Parce que là, on a l'impression que elle refuse des idées extravagantes, mais on peut peut-être pimenter le quotidien d'une
avec
autre
des
façon.
Petites choses. Ouais.
Mais déjà, pimenter le quotidien, c'est de pouvoir se regarder autrement, se parler autrement. La sexualité, on n'a pas besoin, en effet, de trouver des trucs qui vont être sortis tout droit d'un film pornographique ou d'un truc qui fait peur et qui renvoie une image de soi mise en danger potentiellement, puisque c'est peut-être ça qui se passe, c'est-à-dire qu'elle refuse parce qu'il y a un trop grand gap entre son érotisme et l'érotisme qu'il lui proposerait. Mais effectivement, il suffit simplement de le faire pas à la même heure, de le faire avant le repas plutôt qu'après, de le faire dans une autre pièce, effectivement, pourquoi pas. Mais encore une fois, ou une autre position, et quand je dis une autre position, c'est pas toutes les positions uluberlues.
C'est pas la gymnastique acrobatique.
Absolument, parce que sinon, on comprend bien qu'on le fera pas beaucoup, parce qu'à un moment donné, on est fatigué, parce qu'il y a des enfants qui sont...
Il faut un échauffement pour la gymnastique.
Exactement, sinon après, vous retrouvez avec des élongations et avec des claquages et des choses comme ça, ce qui est très peu érotique.
Ouais, complètement. Et vous disiez, la relation, forcément, elle rentre dans la routine, toute relation, parce que l'amour, le désir, ça s'étiole toujours. Alors certains disent que ça dure 3 ans, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait au bout de combien de temps ça s'arrête, ce début, là où on est tout le temps en alerte,
alors,
justement ?
Alors, ce n'est pas que la relation s'étiole, c'est que la relation s'ancre. C'est tout à fait différent. On a tendance à le voir négativement. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand elle n'est pas ancrée, elle est inquiète. Alors certes, comme elle est inquiète, alors on dit « mais je suis prête, tu veux faire un jogging ?»« Mais oui, tu veux faire ça ?»« Mais oui !» La réalité, c'est que je ne l'étais pas vraiment, mais j'avais tellement peur de ne pas te plaire. Donc effectivement, c'était mu par la peur et par l'inquiétude. Ensuite, on est dans la tranquillité. Du coup, on ancre nos façons de faire. On se dit « chérie, je suis fatiguée ce soir. » L'un ou l'autre.
« J'ai mal à la tête. »
Ou « j'ai mal à la tête. » Mais en tout cas, on se permet de dire oh, tu veux pas qu'on fasse un truc plus simple? Et ça, c'est bon aussi, c'est doux, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours en démonstration, une sorte de faux self, de fausse image de
c'est
soi.
C'est moins fatigant, mais c'est pas pimenté, quoi.
Oui, mais encore une fois, pimenté ne veut pas dire huluberlu. On peut tout à fait, tout d'un coup, se dire, oui, on va faire l'amour, oui, on va le faire plus lentement et plus longuement, et c'est pimenté. Ou oui, on va se faire des regards de braise en plein milieu d'un dîner entre potes, où c'est le dîner et l'autre, effectivement, le partenaire qui regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est-à-dire, pimenter, c'est simplement se dire, n'oublions pas que nous avons à nous séduire. C'est pas nécessairement dans la pratique de la sexualité. On peut faire l'amour de la même façon, tout en la rendant toujours autre, par la façon que nous avons de nous envisager.
Jimmy ?
Mais du coup, est-ce que la routine, c'est mal? Est-ce qu'on peut finalement être heureux comme ça? Est-ce qu'il y a des couples qui arrivent à être, au contraire, épanouis tout le temps, toute leur vie, ou finalement, c'est normal d'avoir des phases avec des hauts et des bas, comme dans la vie de tous les jours?
C'est tout à fait normal, bien évidemment. Après, la capacité qu'ont les uns et les autres à faire avec cela, surtout happé par la curiosité de l'extérieur, des propositions de l'extérieur. Mais rappelons qu'un être humain se construit sur la base de la routine. Est-ce que vous imaginez une seule fois, hormis les vacances scolaires, proposer à vos enfants des repas pas aux mêmes heures, où il ne sait pas quand il va manger, où il ne sait pas quand vous allez venir le chercher à l'école? C'est extrêmement anxiogène. Et du coup, ça crée une sorte de dépendance, ou à défaut, parce que c'est insupportable la dépendance, un repli et une auto-satisfaction personnelle que l'on fait de l'autre côté. Donc un enfant se construit comme ça, une relation de couple se fait aussi comme ça, mais de temps en temps, c'est important, comme pour les enfants, de leur proposer qu'on se couche plus tard, qu'on mange de la junk food au lieu de la bonne nourriture tout d'un coup, et que c'est pas grave, et que du coup ça pimente la relation, ça leur permet d'apprendre la souplesse des relations. Et bien c'est la même chose dans une relation de couple.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va parler de tout ce qu'il faut faire pour avoir un bébé, pour maximiser ses chances d'être enceinte au plus vite quand on n'a pas de problème particulier d'infertilité, bien sûr, hein, ça passe par l'alimentation, par l'arrêt du tabac éventuellement, mais vous verrez que les hommes aussi doivent revoir certaines habitudes. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Comment pimenter vos relations sexuelles? Enfin, le Nutella, bien sûr. À suivre, vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive avec une invitée, mais vraiment, alors je dis souvent, mais là, une invitée exceptionnelle. C'est l'actrice Sylvie Testu, qui est actuellement au Théâtre Édouard VII, à l'affiche d'une pièce de Marivaux qui est excellente. Et en plus, vous connaissez Sylvie Testu, elle est excellente cliente. À tout de suite.
Merci Mathieu, bonne émission et surtout, restez sur Europe 1.